Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité politique et géopolitique de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, le directeur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales Thomas Gomard, et le politologue Dominique Régnier, directeur de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique. Sans oublier, bien sûr, à la fin de cette émission, la conversation mondiale d'Emmanuel Laurentin, la contribution des intellectuels étrangers à nos débats. Au sommaire de nos échanges de ce dimanche 17 mai, quand la planète déconfine, quel état des lieux ? Cette première semaine de déconfinement, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Domine avant tout, bien sûr, la joie de sortir à toute heure de chez soi sans autorisation, de retrouver parents et amis, d'entendre parler de la réouverture de certaines plages, des forêts et de la possibilité de partir en vacances l'été prochain. Désir de repas entre amis, de balades au grand air, de librairies dévalisées redevenues possibles. Mais pour certains, pas d'emballement non plus, avec le syndrome de la cabane ou la difficulté de retrouver le monde extérieur après ces mois de cocon familial, de silence dans les villes et de nature libérée, sur fond de menaces d'un virus toujours circulant, de peur de la fameuse deuxième vague et de crise économique durable, sans oublier ces cafés, restaurants, cinémas, théâtres aux portes toujours closes, un printemps sans concert, sans festival. À moitié vide, à moitié plein, ces trains qui circulent de nouveau, mais avec un siège sur deux seulement et interdiction pour quiconque de dépasser les 100 km. Une France en liberté contrôlée et son obsession des attestations pour ses salariés contraints de disposer d'un certificat de leur employeur dans les transports aux heures de pointe. Dans le métro, dans les rues, des visages masqués au sourire invisible, comme un faux air de bloc opératoire. Sans oublier le retour au bureau, étrange et familier, entre effectifs réduits, consignes sanitaires et difficulté de renouer avec les notions de projet et de collectif. Tout a changé, mais rien n'a changé en France. Une France connue pour ses colères, sans cesse à la une, ses polémiques, ses débats sur les vaccins de Sanofi, la date des municipales, sur un pouvoir jugé trop vertical et infantilisant quand il gère la crise par décret, mais trop horizontal quand il laisse les collectivités locales décider de la réouverture des écoles. Colère française des gilets jaunes et de certains syndicats appelant à reprendre la lutte, jeu politique reprenant ses droits à 2 ans de l'élection présidentielle. Avec quel nouveau logiciel, à droite, à gauche et à l'Élysée. Cette semaine, le président, en visite dans un hôpital parisien, reconnaissait avoir commis une erreur. Et ce dimanche, dans le JDD, son ministre, Olivier Véran, annonce un Ségur de la santé pour augmenter les salaires au-delà des primes. Le déconfinement, semblable à une vague qui, en se retirant, laisse apparaître en France et dans le reste du monde les forces et les faiblesses des États. L'Allemagne, perçue de l'extérieur plus que jamais sûre d'elle après sa bonne gestion du Covid, mais en réalité tiraillée entre ses intérêts nationaux et son identité européenne, à l'image du clivage cette semaine entre la Cour constitutionnelle de Karlsruhe et la Banque centrale européenne. L'Amérique, chaos debout après le tsunami Covid, des chiffres vertigineux de morts et de chômeurs, et une société toujours coupée en deux, entre pro et anti-Trump, à 6 mois du vote. La Chine de Xi Jinping, enfin, polarisant plus que jamais le débat mondial, parce que de là-bas est parti le mal, mais de là-bas aussi arrive le tracking et autres contrôles sociaux. Bref, une planète en voie de déconfinement, n'en finissant plus de se demander ce qui va rester du monde d'avant dans le monde d'après. Dominique Régnier, bonjour. Parlons d'abord de la France. Ce dimanche, le chef de l'État se rend à Montcornet, dans l'Aisne, où Charles de Gaulle tenta une contre-offensive contre l'Allemagne nazie le 17 mai 1940. C'est le premier déplacement présidentiel depuis des semaines qui n'est pas en lien avec l'épidémie. Est-ce que cela signe un début de retour à la normalité ? Avec quelle dimension mémorielle et symbolique ?
Il y a certainement, j'imagine en tout cas, cette idée de commencer à renouer en effet avec la période d'avant la pandémie, ce qui est sans doute l'une des conditions de la relance économique. Plus vite nous arriverons à éprouver ensemble le sentiment que nous sortons progressivement de la crise sanitaire, à supposer que ce soit vrai, hein, évidemment je n'en sais rien, plus vite les entreprises, les investisseurs recommenceront à croire dans l'économie et peut-être même que quelques projets plus ou moins certains de licenciement pourraient être reportés et ce qui serait une excellente nouvelle, éventuellement même remisée. Je crois que ça participe de cela. Reprendre le cours normal de notre existence est une condition essentielle à la reprise économique. Et puis sur la dimension mémorielle, je serai partagé parce que, au fond, on voit bien que l'Europe a été ébranlée. Il y a une sorte de crise existentielle qui saisit ce continent et le grand projet européen qui le trame et qui le porte. Mais il me semble, peut-être que c'est quelque chose sur quoi on reviendra ensuite, mais il me semble, Émilie Aubry, que malgré tout, l'Europe est d'une part une construction qui résulte des menaces existentielles qui pèsent sur le continent. C'est un des grands paradoxes de l'idée européenne que d'être le résultat de la menace existentielle pesant dans l'histoire sur l'Europe elle-même. Et nous y sommes à nouveau. C'est-à-dire qu'aussi bien, il s'agit d'un moment où le sentiment que l'Europe est menacée peut servir de point de départ, de point d'appui à une nouvelle ambition européenne. Et on voit les éléments présents aujourd'hui. Hein. Il y a l'un, à savoir la fragilisation, le doute, les interrogations, mais il y a aussi l'autre, à savoir les bonnes nouvelles, les bonnes décisions de l'Union européenne qui sont en train d'être prises et la possibilité que cette crise soit à l'origine d'une nouvelle expansion de l'idée européenne. Peut-être que c'est cela aussi, au fond, que de revenir sur l'histoire et les traces de cette première période de fondation de l'Union européenne au cours de la Deuxième Guerre mondiale.
Et on reparlera bien sûr de ce qui attend l'Union européenne dans les jours à venir. Aurélie Filippetti, revenons d'abord à cette première semaine de déconfinement en France. Vous avez plutôt été frappée, vous, par le syndrome de la cabane ou par la joie de la libération ?
Oh, écoutez, ni l'un ni l'autre, parce que je suis dans une position, je pense comme beaucoup de gens, d'attente un peu on amortit le choc, on est dans un déconfinement qui n'est pas encore complet, évidemment, mais avec beaucoup d'incertitudes sur la suite et notamment sur la situation économique et ses conséquences dans les mois qui viennent, parce que je crois que la difficulté que va devoir relever l'Europe, c'est bien de savoir comment affronter ensemble et le plus uni possible cette crise économique qui nous menace, ce choc économique lié à la pandémie. Et le symbole de s'interroger comme ça sur l'origine de la construction européenne n'a de sens que s'il nous amène à vraiment analyser en profondeur tout ce qui a dysfonctionné dans la gestion de la pandémie par l'Union européenne. Il faudra le faire bien sûr aussi à l'échelle nationale, mais je crois que la gestion européenne de la pandémie a été, on peut le dire, un fiasco. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été inexistante. Il n'y a pas eu de solidarité européenne réelle, à part finalement ce qui aurait pu exister sans la construction institutionnelle de l'Union européenne, c'est-à-dire effectivement des transferts de malades, mais d'ailleurs ça s'est fait par exemple avec la Suisse. Il y a des malades français qui ont été soignés en Suisse. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, donc ça aurait été fait de toute manière. Donc je pense que l'avenir de l'Union européenne doit absolument se fonder maintenant sur vraiment une analyse en profondeur de tous ces dysfonctionnements. Et le premier des dysfonctionnements, il a été finalement souligné par la décision de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, qui donc a sérieusement questionné le programme d'achat de titres par la BCE, obligeant la BCE à répondre. Mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas prendre ça comme une alerte salutaire et se dire que nos institutions européennes sont vraiment dans un dysfonctionnement structurel et qu'il faut donc réarmer, reconstruire, rebâtir toute l'organisation institutionnelle de l'Union européenne pour pouvoir affronter ce qui nous attend.
Thomas Gomard, Vous voulez vous aussi sans doute revenir sur ce qui s'est passé cette semaine en Allemagne et dont parlait à l'instant Aurélie Filippetti, qui est en effet l'un des temps forts de cette semaine de déconfinement que nous avons regardé de France. Peut-être nous rappeler, nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Est-ce que vous y voyez en effet ce qu'on pourrait appeler quoi, les habits neufs d'un nouveau nationalisme allemand en opposition avec l'Union européenne?
Oui. Avant de parler de l'Allemagne, je voudrais revenir sur Montcornet, sur la célébration mémorielle évoquée par Dominique Régnier et faire le lien avec ce que vient d'exprimer Aurélie Filippetti. Je m'explique. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette célébration, c'est qu'en réalité, elle reflète des mécanismes institutionnels propres à la France. Nous avons fondamentalement une matrice institutionnelle de la Ve République qui s'est forgé sur le politico-militaire. Au fond, ce que le général de Gaulle a essayé de faire avec les institutions qui sont les nôtres, c'est d'éviter précisément que juin 40 puisse un jour se reproduire. Au passage, je crois que c'est utile de rappeler que les 6 semaines de combat, c'est 100 000 morts. Donc ça donne aussi des ordres de grandeur historiques par rapport à ce que nous traversons. Pourquoi je fais ce rappel? C'est que je crois que nous avons eu une entrée, une gestion de la crise française et donc un contraste avec la gestion allemande de la crise qui s'explique beaucoup par ces mécanismes institutionnels. Le fait que nous soyons rentrés dans la crise à coup de conseil de défense, alors que l'Allemagne préparait très différemment les choses, est pour moi le reflet de ces mécanismes institutionnels qui se sont exprimés au tout début par cette idée que nous étions en guerre contre un virus. Et il y a là, je pense, une différence assez fondamentale entre l'approche allemande et l'approche française qui se retrouve dans les différences d'approche au niveau institutionnel et des dysfonctionnements institutionnels qu'Aurélie Filippetti a pu pointer. Donc je voulais commencer par là parce que je pense qu'au-delà de l'aspect, au fond, c'est le retour à la normale avec cette célébration mémorielle du président Macron. Je pense qu'il y a probablement de manière implicite des choses beaucoup plus profondes qui s'expriment à la faveur de cette commémoration. Le deuxième point, c'est effectivement ce qui s'est passé en Allemagne. La cour de Karlsruhe a un rôle tout à fait éminent. C'est aussi toute l'approche par le droit qui, là aussi, est différente de la nôtre en Allemagne. Ça a été vécu comme, au fond, en particulier en France, comme une volonté, l'expression d'un, vous avez utilisé ce terme d'ailleurs, Émilie Aubry, d'un nationalisme fort. Moi, ce qui m'a frappé au-delà de cette prise de position d'accord de Karlsruhe, c'est la réaction immédiate d'Angela Merkel à contre-courant. Ouais.
Je vous interromps juste, Thomas Gomard, je vous coupe juste, mais peut-être faut-il expliquer à ceux qui auraient manqué cet événement cette semaine. En fait, le tribunal constitutionnel fédéral de Karlsruhe, c'est-à-dire la plus haute juridiction allemande, a reproché à la Banque Centrale Européenne sa politique monétaire. Et il y a eu ensuite, en effet, intervention de la chancelière allemande Angela Merkel pour essayer de trouver une sorte de compromis entre la position de la BCE et l'identité européenne de l'Allemagne. Précision.
Voilà. Voilà, merci effectivement de ce rappel. Alors, ça montre, à mon avis, ça ouvre la question suivante, c'est que la chancelière Merkel indique ce faisant qu'elle reste sur la même ligne et que donc elle confirme le rôle que l'Allemagne, au sens gouvernemental, attribue à la BCE. Mais ça pose une question beaucoup plus profonde ensuite, pour la suite de ce que nous avons à traverser, c'est est-ce qu'au fond, la solidarité européenne peut uniquement s'exprimer par du rachat de dette. Et ça, c'est à mon avis une question tout à fait essentielle à aborder parce qu'on sent une cassure très forte au sein des pays de la zone euro et en particulier vis-à-vis de l'Italie. C'est-à-dire qu'il y a un moment ou un autre, si la solidarité européenne ne s'exprime que par du rachat de dette, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire, on est solidaire en permettant à des pays déjà très lourdement endettés de s'endetter davantage, je pense qu'il va y avoir très vite une réflexion au niveau national, en particulier pour un pays comme l'Italie, de type coût-avantage. Et autrement dit, au-delà de la réflexion aussi sur le cadre institutionnel déjà évoqué, je pense qu'il y a une réflexion urgente à avoir sur d'autres formes de solidarité en termes économiques que du simple rachat de dettes.
Nous sommes donc en Allemagne pour ce démarrage d'émission, Dominique Régnier. Nous essayons de comprendre si nous nous déconfinons aussi de la même manière de part et d'autre du Rhin. Intéressant de voir qu'en Allemagne, cette semaine, on a assisté à des manifestations sur le thème « La démocratie pas la virologie, c'est-à-dire des cortèges de 2000 manifestants qui se sont rassemblés dans différentes villes pour critiquer les restrictions restantes face au coronavirus. C'était parfois à l'appel de l'extrême droite et de l'extrême gauche, mais pas toujours. Qu'est-ce que ces manifestations disent de l'Allemagne ?
Ce qu'elles disent de l'Allemagne et plus largement aussi de l'Europe, un attachement profond dont nous devons être tous très, très heureux et même fiers à nos libertés et à ne pas faire basculer, au motif que nous sommes confrontés à une crise sanitaire, ne pas basculer trop vite dans une société de contrôle, d'empêchement, de surveillance. Et vous l'aviez dit, Émilie Aubry, à l'ouverture de cette émission, il y a un modèle chinois en particulier qui existe, qui se profile et qui se propose d'ailleurs pour son efficacité supposée à gérer les pandémies. Mais je voulais aussi, Émilie Aubry, quand même insister sur un point. Il ne faut pas, de ce qui vient d'être dit, nous sommes, et c'est peut-être aussi ça les Européens, nous sommes d'une sévérité extrême à l'égard de l'Europe, c'est même parfois assez choquant. On reproche à l'Europe, ça a été fait encore ici, mais on reproche à l'Europe de ne pas avoir utilisé des outils pour anticiper ou mieux gérer la pandémie, qui sont des outils que les États-nations n'ont pas voulu mettre à la disposition de l'Europe, au nom de leur souveraineté. On reproche à l'Europe une inefficacité qui est le fait d'absence d'outils parce que les États ne veulent pas mettre ces outils à disposition de l'Europe. Ils le regrettent aujourd'hui amèrement, très bien, mais ça n'est pas l'Europe qui a été désarmée, ce sont les États qui ont désarmé l'Europe. Cette crise n'aurait pas été la même s'il n'y avait pas eu ce souverainisme en matière sanitaire. L'Europe n'a aucun moyen, aucun moyen. J'ajouterai aussi sur la question du tribunal de Karlsruhe. On passe un peu vite parce que le tribunal de Karlsruhe, qualifié dans sa décision de nationaliste, est dans son rôle. C'est pour ça qu'il a été institué. Et il pointe deux problèmes qui me semblent réels. Un premier problème qui est la question de l'effet de l'endettement collectif sur la valeur de l'épargne. Alors des Allemands, mais ça vaut pour tous les épargnants européens, il se trouve que là il s'agit de l'Allemagne, mais ça vaut pour tous les épargnants européens. Est-ce que cette dette importante ne va pas se payer d'une paupérisation des épargnants allemands, mais c'est vrai pour tous les Européens, et le tribunal de Karlsruhe est dans son rôle de poser la question. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une légitimité politique à prendre des décisions aussi lourdes sur le plan de la politique monétaire sans avoir au fond un soubassement proprement politique, y compris de type parlementaire, à tout le moins une espèce de décision démocratique. Ce sont de vraies questions. On ne peut pas les évacuer comme s'il y avait simplement une sorte de nationalisme juridique. Et je veux rappeler aussi que dans les décisions qui ont été prises et qui sont interrogées par la Cour allemande, ça n'est pas que de la mutualisation de la dette. Il s'agit bien de dépenses, de reconstruction. Ce sont des subventions qui vont être proposées grâce à cet argent qui est levé de façon considérable. C'est des centaines de milliards d'euros. Peut-être même que nous arriverons jusqu'à 2000 milliards d'euros pour la relance que l'Europe met à la disposition des Européens sous forme de subventions pour des dépenses de santé, pour des dépenses de reconstruction, pour l'investissement dans les technologies du futur. Et l'idée, je le rappelle, l'idée c'est que le remboursement de cette dette se fera via le budget européen au prorata de la richesse d'un pays et non pas au prorata de ce qu'il aura reçu. Qu'est-ce qu'il y a de plus expressif d'une solidarité européenne que d'organiser ce remboursement au prorata de la richesse d'un pays et non pas de ce qu'il aura reçu ? On est dans un modèle, puisque, je termine là-dessus, Émilie Aubry, mais l'émission d'aujourd'hui nous invite à réfléchir à ce qui nous arrive à l'échelle de la planète. Nous sommes dans une condition planétaire avec cette pandémie. Et nous voyons que dans ce monde, qui vit différemment et l'entrée dans la pandémie et le déconfinement, il y a une exception indiscutable, c'est l'Europe, avec un degré de liberté extraordinairement préservé, un État-providence partout encore très fort, des plans de relance qui déjà sont en train d'être préparés de manière très solide par l'Union européenne à coût de centaines de milliards d'euros. Et je trouve très très injuste pour cette construction que l'on ne dise pas à quel point c'est d'ores et déjà en réalité un grand succès, même si ça ne peut pas suffire et même si probablement, comme l'a dit Angela Merkel, en effet, citant d'ailleurs Jacques Delors, il faut aller vers plus d'intégration politique pour que ces grandes décisions aient une légitimité démocratique.
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
On comprend bien à vous entendre depuis le début de cette émission qu'avec le déconfinement vient l'heure des choix pour la Banque Centrale Européenne, pour l'Allemagne et pour la France, Aurélie Filippetti, avec peut-être la réinvention du politique, ce que le déconfinement aura fait au macronisme. Quel est votre regard sur cette visite présidentielle cette semaine à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et l'annonce d'un plan visant à retrouver l'efficacité perdue, je cite, à revaloriser les soignants, à remettre la logique sanitaire au premier plan, avec le mea culpa présidentiel?
Vous savez, j'attends des annonces plus précises que ce qui a été dit pour le moment. J'ai trouvé qu'il y avait aussi une forme de maladresse ou un peu de brutalité et surtout beaucoup de communication dans cette manière de se déplacer. Enfin, d'ailleurs, tous ces déplacements présidentiels, que ce soit à la Salpêtrière, que ce soit à Montcornet, enfin, on est encore dans cette image d'Épinal, hein, de présidentiel quasi monarchique, comme le soulignait Thomas Gomard. Je pense que ça fait partie des blocages structurels aujourd'hui de notre pays. Et cette hypercentralisation, cette idée qu'un homme seul, le président de la République, quel qu'il soit d'ailleurs, pourrait résoudre tous les problèmes d'un pays, c'est ça qui a fait que la France a moins bien su faire face à la pandémie que l'Allemagne, qui est un pays non seulement avec un régime parlementaire, mais aussi un pays, un État fédéral, et avec une, je dirais, une culture politique beaucoup plus laïque. Il y a un rapport à l'exercice du pouvoir qui est beaucoup plus laïque en Allemagne, alors qu'en France, nous avons besoin de cette mystique monarchique qui, au fond, est devenue un handicap maintenant. Après, sur le fond, s'il y a un plan pour l'hôpital qui revient en arrière sur les derniers plans, et ça, c'est depuis le plan de 2009, en fait, hein, qui ont soumis l'hôpital public à des logiques de rentabilité à court terme qui ont été destructrices, tant mieux. Mais j'attends de voir, et j'ai quand même des inquiétudes, parce que au fond, l'idéologie qui a prévalu depuis des années en matière de gestion des hôpitaux publics comme de tous les services publics, c'est ce qu'on appelle la New Public Management. C'est-à-dire l'idée qu'on peut faire mieux avec moins d'argent. Et que rien n'est jamais une question d'argent, mais tout est une question d'organisation, de réorganisation. C'est ce qu'on a dit à l'hôpital, c'est ce qu'on disait encore à l'automne dernier, en ce qui concerne l'hôpital public, au moment où des milliers de chefs de service, de personnel hospitalier et para-hospitalier disaient qu'ils n'en pouvaient plus. Donc là, le plan que j'attends, qui est nécessaire, c'est un plan d'investissement massif dans l'hôpital public et un plan évidemment aussi de revalorisation des salaires et des carrières pour éviter que les praticiens hospitaliers ne quittent l'hôpital public, souvent à contre-cœur, souvent vraiment le cœur lourd, pour partir vers le privé ou pour parfois partir à l'étranger. Donc ça c'est une priorité, mais ça impliquerait de revenir sur cette idéologie vraiment de destruction des services publics qui a mis l'hôpital à genoux. Et il ne s'en est sorti face à cette crise que grâce à une mobilisation extraordinaire des personnels. L'autre chose sur laquelle il faut absolument revenir, c'est cette pratique, ce qu'on appelle la tarification à l'acte. Et ce qui est quand même désespérant, c'est on sait depuis, enfin moi, quand j'étais députée, donc depuis 2007, enfin avec sa mise en place progressive 2009, que c'est une catastrophe et qu'il faut revenir là-dessus. Il faut revenir sur cette tarification à l'acte. Et apparemment, c'est extrêmement compliqué de revenir sur cette tarification à l'acte. Or, c'est ça le nœud gordien qui, au fond, fait que l'hôpital est devenu une énorme machine bureaucratique aujourd'hui, où finalement les médecins et les soignants passent beaucoup de temps à remplir les dossiers. Mais cette logique-là, c'est vraiment une remise en question de toute, encore une fois j'insiste, c'est une idéologie qui prévaut en matière de gestion des services publics, de la santé, comme de la recherche, malheureusement, parce que la recherche publique a été soumise à la même logique de rentabilité à court terme et donc aux mêmes dérives bureaucratiques depuis des années. C'est ça aussi qu'il faut accepter de remettre à plat. Donc j'espère que le gouvernement s'y emploiera, mais j'avoue que j'ai quelques doutes.
Votre réaction, Dominique Régnier, à cette idéologie dominante sur laquelle revenait à l'instant Aurélie Filippetti, ce qu'elle résumait en parlant de New Public Management, que va faire à ces idéologies l'après-Covid-19 en France, mais aussi ailleurs?
Bon, il y a la question. Je partage d'ailleurs la vision d'Aurélie Filippetti sur la situation dans laquelle nous placent nos institutions, cette centralisation et cette idée que nous sommes amenés à croire tous les cinq ans et souvent pendant très peu de temps que nous avons un sauveur aux manettes. C'est vrai que là nous avons un problème très très profond et qui nous caractérise beaucoup. Sur l'aspect de la politique sanitaire, on va retrouver ces débats qui nous sont familiers et dans lesquels on s'est un peu enlisé. J'espère qu'on sortira de ces discussions un peu répétitives. Je veux dire par là que on a d'un côté cette idée que nous sommes dans un pays qui a affaibli son appareil sanitaire, son appareil hospitalier à cause d'une politique souvent qualifiée de néolibérale, voire d'ultralibérale. Et on sait aussi par ailleurs que les chiffres ne disent pas cela, que nous sommes les champions du monde de la dépense sociale et en matière de santé. Et on a toujours ces mêmes querelles, au fond, avec des données qui parfois ne correspondent pas aux affirmations qui sont répétées. Il faut aussi poser la question. La question de la rémunération du personnel de santé, elle se pose, mais elle implique aussi de poser la question du temps de travail. Il y a eu la fameuse réforme du temps de travail. Les 35 heures ont eu un effet sur le système hospitalier de désorganisation. Et puisque nous comparons aujourd'hui les rémunérations entre le personnel hospitalier français et européen, allemand par exemple, avec des écarts qui sont très importants, il faut aussi comparer le temps de travail et essayer de voir s'il n'y a pas là l'une des pistes. Et puis ma remarque supplémentaire, Émilie Aubry, ce sera de dire que on parle depuis maintenant pas mal de semaines, en raison de cette crise sanitaire, de notre capacité ou de notre impuissance à prévoir les crises, les grandes crises qui mettent tout par terre. Parmi ces grandes crises qui mettent tout par terre et qu'il faut savoir anticiper, il n'y a pas que des crises de type sanitaire. Et il peut très bien y avoir aussi une crise financière. Le monde est en train de vivre dans une énorme bulle financière avec un surendettement planétaire qui se chiffre en, alors si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme, je peux me tromper, on vérifiera, mais 150 000 milliards de dollars. C'est absolument colossal. Autant dire que l'argent en circulation n'a plus beaucoup de rapport avec les richesses créées. Je ne suis pas économiste, je suis encore moins spécialiste de ces questions financières, mais on peut imaginer quand même, sans être expert, que cette espèce d'énorme bulle financière, à un moment donné, va demander à vérifier sa valeur, si je puis dire, avec la réalité de la création économique, de la création de richesses. Donc cette crise-là, quand elle va venir, on se plaindra de la même façon de ne pas l'avoir anticipée, alors que certains textes ou certaines alertes étaient lancées. Donc quand on pense au retour sur la réforme du secteur de la santé, qui est sans doute tout à fait nécessaire, il faut garder aussi à l'esprit de quoi allons-nous nous passer pour transférer une partie de notre richesse supplémentaire sur le secteur de la santé. Il n'y a pas que un problème dans le secteur de la santé, chacun le sait, bien d'autres secteurs. Quel secteur allons-nous au fond déshabiller pour mieux habiller le secteur de la santé? Donc c'est dans la réaffectation des ressources que se loge la difficulté du problème, plutôt que dans l'expression d'un souhait très légitime d'augmenter les moyens de l'hôpital.
Thomas Gomard, Dominique Régnier le rappelait à l'instant, des choix budgétaires abyssaux vont être à faire ces prochaines semaines dans un contexte de crise économique absolument historique. Avant cette épidémie du Covid-19, on disait beaucoup qu'était venu le temps des colères. On parlait évidemment beaucoup de ce qui s'était passé en France avec les gilets jaunes, mais on citait aussi les mouvements qui avaient pu se produire au Liban ou encore au Chili. Est-ce que vous pensez que va revenir ce temps des colères ou y a-t-il selon vous une sorte de surmédiatisation de ces colères qui finalement serait passée au second plan après ces périodes d'épidémie?
Je crois, pour prolonger ce que vient de dire Dominique Régnier, moi je suis très attentif au caractère que peut prendre la crise. C'est-à-dire que là on est très focalisé sur la question sanitaire, on ne voit pas forcément ce qui se passe dans d'autres champs. Et effectivement, je crois qu'il faut être très attentif, notamment à la capacité de maintenir des capacités. C'est très mal dit, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est focalisé sur le sanitaire, alors que sur l'aspect technologique, il y a des changements qui sont en train de s'opérer extrêmement profonds. Je m'explique. On est face à une situation où la maîtrise actuelle passe en grande partie par la maîtrise des plateformes numériques. Et que cela, c'est en train d'échapper aux Européens, pour faire très, très simple. Ça mériterait des développements supplémentaires. Donc, je pense que sur cette dimension-là, il faut effectivement se placer dans des cas de figure où, imaginons que nous ayons vécu ce confinement avec une pandémie numérique. C'est-à-dire que au virus, au Covid-19, se seraient ajoutés des virus informatiques nous empêchant de travailler comme nous l'avons fait. Alors, ce sont des cas de figure qui peuvent sembler relever de la science-fiction, mais qui ne le sont pas en réalité. Et effectivement, par rapport à aux réallocations de ressources auxquelles il faut se préparer, je pense qu'il faut, et ça renvoie aussi à la discussion sur les différents types de mécanismes institutionnels, ne pas croire que, au fond, la crise sanitaire et notre futur, elle va être là, elle va durer, mais elle va s'accompagner d'autres formes de crise. Quant à savoir maintenant sur le temps des colères, moi, ce qui me frappe là-dessus, si vous voulez, c'est peut-être des différentiels entre pays marquants d'unité nationale qui se fissurent selon les régimes. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne la France, on le voit bien, on a un exécutif qui ne bénéficie pas de du même soutien de l'opinion que dans d'autres pays européens parce que il est rentré dans cette crise après celle des gilets jaunes, après les grèves très longues que nous avons traversées. Et effectivement, on entend des voix politiques ou syndicales qui ne sont plus du tout dans une logique d'unité nationale. Je le sens moins effectivement en Allemagne. Je le sens même moins d'ailleurs en Italie. Et ensuite, quand quand on sort d'Europe, il est frappant de constater qu'un certain nombre, vous mentionniez par exemple le Liban, il est frappant de constater à quel point le confinement a fait taire momentanément, je pense, un certain nombre de contestations. Donc, je ne sais pas si on peut répondre de manière globale, mais plutôt au cas par cas, avec aussi une très grande différence entre les pays, c'est qu'il y a des pays qui vont être dans une telle situation économique, une telle situation de détresse sociale, que ça ne sera pas forcément de la protestation, mais tout simplement des logiques de survie qui vont se mettre en place, y compris d'ailleurs au sein de l'Union européenne, pour revenir à l'Europe, où on a un phénomène d'appauvrissement qui ne peut être corrigé que par une très forte relance économique.
Aurélie Filippetti, je crois que vous vouliez réagir par rapport à ce qu'avait dit Dominique Régnier sur l'organisation de l'hôpital et les 35 heures. Et puis j'aimerais bien vous entendre aussi sur l'avenir de ces colères, de ces mécanismes de protestation dont nous parlions à l'instant avec Thomas Gomard.
Oui, juste un petit mot sur les 35 heures. Mais on sait très bien que les médecins hospitaliers, par exemple, ne sont pas aux 35 heures. Donc le problème de l'hôpital public, c'est pas les 35 heures. C'est vraiment, il faut avoir une politique d'investissement dans l'avenir de l'hôpital public, en considérant que l'hôpital, la santé, ce n'est pas une dépense, c'est véritablement à la fois un projet de société et aussi un investissement qui permet de créer de l'emploi, de créer de la richesse. Ça fait partie de ce qu'on appelle les biens communs, en quelque sorte, c'est-à-dire ces valeurs supérieures qui sont des objectifs que doit poursuivre une société, et en particulier une société démocratique, et pour lesquelles il y a une forme de consensus sur le fait qu'il faut consacrer une part importante de l'argent public à la financer. Et ces biens communs, il y a la santé, il y a l'environnement, il y a l'éducation, il y a la recherche, par exemple, et moi j'aimerais qu'il y ait la culture aussi, évidemment. C'est au fond cette question des biens communs qui peut nous permettre, à la fois en France et en Europe, de définir un nouveau projet commun. Je m'explique. En ce moment, évidemment, les États sont en train de s'endetter massivement. La BCE annonce des rachats massifs, hein, 2400 milliards d'euros de titres publics. Ça va servir à quoi cet argent ? Il faut que cela serve à des politiques budgétaires. On a un atout, c'est que les taux d'intérêt sont négatifs en ce moment. C'est-à-dire qu'au fond, les États vont rembourser moins que ce qu'ils ont emprunté. Et il faut utiliser cette chance inouïe pour se dire qu'au fond, notre dette, elle ne nous coûtera rien. Donc, il faut que, si elle ne nous coûtera rien à une condition, c'est que nous l'utilisions bien pour bâtir de nouvelles politiques publiques qui ne soient pas des politiques, et là c'est très important, qui contribuent à aggraver l'état de la planète, mais qui soient par exemple des investissements dans l'économie verte, qui soient des investissements dans la transition énergétique, et qui soient des investissements de long terme, comme je l'ai dit, sur la santé, l'éducation, la recherche. Il faut aussi qu'on s'interroge sur le financement de ce que l'on appelle le cinquième risque, c'est-à-dire la grande dépendance des personnes très âgées. Et on l'a vu avec le drame, la tragédie qui s'est passée dans les EHPAD. Nos sociétés vieillissent. Il faut qu'il y ait un financement commun par l'ensemble du système social, c'est-à-dire basé et fondé sur la contribution publique, mais qu'on finance la prise en charge de ces personnes très âgées. Là encore, ça, certains vont dire oui, mais c'est des dépenses supplémentaires, mais de l'autre côté, ça contribue à créer de l'emploi, à créer de l'activité et à créer du bien-être dans l'ensemble de la société, avec un sentiment de sécurité sur ce qui va nous arriver à tous quand nous serons, si nous sommes un jour extrêmement, extrêmement âgés. Et ça, au fond, ça peut être un projet absolument mobilisateur pour notre pays, mais aussi pour l'ensemble de l'Union européenne, qui a besoin de retrouver, au fond, le sens de son projet projet collectif. Et donc, profitons de cette période où on s'interroge sur ces investissements que vont permettre, au fond, les endettements nécessaires de nos États, que vont permettre ces taux d'intérêt négatifs. Il faut absolument que ça serve à rebâtir des politiques publiques qui soient des politiques orientées vers cette protection des biens communs et vers ce développement de nouveaux services publics.
Dominique Régnier, justement, à propos de ce défi d'inventer de nouvelles politiques publiques après cette épidémie du Covid et dans ce contexte de crise économique majeure, d'inventer de nouveaux investissements, comment va se recomposer le jeu politique français, l'offre politique ? Je parlais tout à l'heure de la façon dont allait ou non être revu le logiciel du macronisme, mais cela vaut aussi pour la droite, la gauche et les extrêmes. À qui, par ailleurs, va profiter ce nouveau contexte ?
Alors, oui, c'est une question clé, Émilie Aubry. C'est, mais bien sûr, je participe avec plaisir à cet échange. Je ne peux pas prétendre exactement pouvoir répondre à la question que vous posez. On est d'accord pour dire que nous spéculons ici, mais c'est nécessaire. Au fond, il y a déjà un premier élément de cadrage de la réponse qui est de dire, selon la place que l'on va accordé dans les différents projets à l'Europe, on aura un premier clivage. Les forces politiques qui vont faire le pari d'une progression du sentiment anti-européen, se sépareront d'une autre famille politique de droite et de gauche dans chacun des cas qui fera plutôt le pari de l'Europe et d'une Europe qui sort avec des renforcés peut-être en tout cas avec de nouveaux projets en matière d'investissement les évoquait à l'instant Aurélie Filippetti. Ça sera, je pense, une première ligne de clivage. Il va y avoir ensuite une autre ligne de clivage. Quand on évoque ces grands projets d'investissement et ces grandes politiques publiques, qu'elle se fasse d'ailleurs à l'intérieur de l'espace européen ou à l'extérieur, il est plus raisonnable, enfin ça c'est un point de vue qu'on va juger orienté, mais il est plus raisonnable de les situer à l'intérieur de l'espace européen pour la raison indiquée par Aurélie Filippetti, qui est que les taux d'intérêt ils deviennent négatifs. Si l'aventure se faisait à l'extérieur, je pense que la punition serait d'une très grande sévérité pour les pays qui voudraient s'y risquer. Mais en tout cas, la question qui va se poser, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne, quand on s'apprête à de tels investissements ou à de telles dépenses futures, c'est la responsabilité à l'égard des générations qui viennent. La responsabilité à l'égard des générations futures, elle est souvent évoquée en matière d'environnement, elle ne l'est jamais en matière de charges budgétaires et de charges de la dette. Or, tout ce que nous décidons aujourd'hui, nationalement comme à l'échelle européenne, c'est d'ailleurs une des questions, à mon sens, que posait le tribunal allemand de Karlsruhe. Tout ce que nous décidons aujourd'hui, inévitablement, et ça n'est pas pathologique, c'est ainsi, inévitablement, préempte la liberté politique des générations futures, mais sur plusieurs décennies. Et donc, on doit aussi s'interroger. Il me semble que les forces politiques devraient ouvrir ce débat et dire, au fond, quelle est leur position, à droite, à gauche, les écologistes, les macronistes, etc. Quelle est leur position sur la liberté future des générations qui viennent, dès lors que nous prenons des décisions aujourd'hui de dépenses qui sont jugées nécessaires. Il est difficile de contester la nécessité de venir au secours des malades et des plus faibles, en particulier y compris les personnes âgées dépendantes. C'est difficile de contester cela, évidemment, il n'en est pas question, mais il faut être cohérent. Et comment faisons-nous pour financer ces modèles de société qui ne vont pas séparer la droite et la gauche? En France, il n'y a pas une version antisociale, je dirais, de la politique. C'est pas vrai, ou c'est très très marginal. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut être très très puissant dans ce champ-là, mais nous ne sommes pas toujours capables de discuter des conditions pratiques qui en découlent. Est-ce qu'il faut augmenter la fiscalité? Est-ce qu'il faut, au contraire, réduire la dépense publique pour permettre l'équilibre des comptes? Est-ce que l'équilibre des comptes, ça n'a pas d'importance? Quelle comptabilité, quel bilan laissons-nous à ces générations qui viennent? Auront-elles la possibilité de prendre des décisions pour elles-mêmes, si ce qu'elles doivent faire chaque année, c'est à tout le moins de faire face aux décisions que nous avons prises aujourd'hui?
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
Thomas Gomard, dans le monde entier, ces jours de déconfinement laissent apparaître, et on le comprend bien ce matin, les questions brûlantes qu'il va falloir se poser en termes de choix budgétaires, de choix politiques. Ce sera particulièrement le cas aussi aux États-Unis, dans les États-Unis de Donald Trump, qui vont être confrontés à une élection présidentielle majeure d'ici quelques semaines. Est-ce que les États-Unis post-Covid restent toujours coupés en deux, entre partisans de Donald Trump et opposants à Donald Trump? Qu'a fait le Covid à cette société américaine fracturée?
D'abord, elle a fait beaucoup de morts. Un mort sur quatre des victimes du Covid dans le monde est américain. Alors ça s'explique par différentes choses, notamment aussi le style de vie, l'obésité qui s'est beaucoup propagée aux États-Unis et qui fait que personnes obèses sont facilement victimes du Covid que d'autres. Et donc c'est effectivement un choc pour les États-Unis qui gèrent cette crise avec un président dont on connaît le mode de fonctionnement. Donc ça c'est effectivement à mon avis très lourd de conséquences. Tout le monde spécule sur les États-Unis après le mois de novembre et la prochaine élection présidentielle, mais je crois que quel que soit le prochain président, il faut pas non plus voir un retrait américain définitif. Quand on se rappelle de 2008, la crise financière était partie des États-Unis, s'était propagée à l'Europe, et en réalité, les États-Unis conservent un pouvoir de structuration et de maîtrise de ce que j'appellerais les points critiques de la mondialisation, qui leur ont permis de ressortir beaucoup plus fort par rapport aux Européens après la crise de 2008. Et donc là, en fait, la question, c'est à mon sens le fait que les États-Unis ont une capacité de rebond importante, on le sait, mais c'est surtout la nature que va prendre la confrontation avec la Chine qui est de plus en plus directe. Et ça, c'est extrêmement préoccupant, parce que là, on a une crise sanitaire qui est partie de Chine et qui montre à quel point le modèle chinois se sent à la fois désinhibé et peut-être déstabilisé sur certains aspects. Et donc moi, pour répondre à la question, je vois assez bien effectivement un clivage européen se dessiner sur les choix politiques à venir en Europe, mais il ne faudrait pas que les Européens considèrent que c'est uniquement entre eux que les affaires internationales vont se jouer. Et ce que je redoute, notamment, je serais assez en désaccord avec ce qu'indiquait Aurélie Filippetti sur le fait que la dette serait presque gratuite. Ce n'est jamais gratuit, la dette. Et de ce point de vue-là, il y a un affaiblissement des Européens qui est d'ores et déjà visible par rapport au modèle transatlantique de jadis ou au modèle chinois qui est de plus en plus véhiculé, je dirais, activement par la Chine. Donc je pense que notre réflexion, elle ne peut pas être comme si, au fond, l'Union européenne était une sorte d'isola pouvant se soustraire au monde. Je pense qu'au contraire, il faut vraiment penser à cette structuration et au fait qu'on a en tendance une Union européenne qui continue à rétrécir par rapport à une Chine qui continue à grandir en termes économiques. Pour combien de temps? Ça, c'est la grande question. C'est-à-dire que le modèle chinois est directement remis en cause par le ralentissement du commerce mondial. Mais la progression est très prévisible, et des États-Unis qui ne vont absolument pas renoncer à leur rôle de structuration.
Cela dit, il y a une prise de conscience au niveau européen de cette menace chinoise, puisque le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a exhorté cette semaine les États européens, je cite, à faire preuve de discipline face au rival systémique qu'est la Chine. Est-ce que c'est cela aussi que révèle dans une lumière crue ces premiers jours ou cette première semaine de déconfinement Aurélie Filippetti? Est-ce que c'est ce temps de la Chine qui serait définitivement venu après cette épidémie, avec une Amérique certes affaiblie par le Covid, mais qui saura, comme le disait Thomas Gomard, trouver des ressources comme elle l'a fait après la crise de 2008, et une Union européenne qui serait en effet la plus fragilisée dans cette histoire et dans ce nouveau rapport de puissance?
Oui, on a l'impression qu'il y a effectivement une guerre finalement qui se mène aujourd'hui en termes de soft power, mais enfin qui prend parfois des tournures beaucoup plus violente et directe entre les États-Unis et la Chine. La Chine, à l'occasion du coronavirus, a affirmé son soft power en cherchant, à travers son poids notamment et son influence à l'Organisation mondiale de la santé, à minimiser sa responsabilité dans le déclenchement de la crise, et aussi à donner une bonne image d'elle-même en allant livrer du matériel dans différents pays, notamment en Europe, mais aussi ailleurs. Donc effectivement, il y a une question d'influence qui se joue entre Chine et États-Unis. Mais simplement sur les États-Unis, je pense pas du tout que les États-Unis soient affaiblis durablement, notamment parce que eux s'engagent, je reviens un petit peu là-dessus, mais ils s'engagent dans une politique de relance qui est très importante, hein. Pour l'instant, ils ont décidé que 12% de leur PIB en 2020 serait consacré à une politique de relance face à la crise. Ça va sans doute être encore plus important en 2021. C'est-à-dire 4 fois plus que ce qui avait été mis en place en 2008 face à la crise financière. C'est énorme. Et les États-Unis n'ont pas peur de s'endetter. D'ailleurs, le paradoxe, c'est que Trump et les Républicains, qui n'avaient cessé de critiquer Barack Obama sur le coût pour les générations futures, sur le coût en termes de dette, etc., de sa politique de santé universelle, au fond, Trump a laissé, mais alors filer la dette, la dépense budgétaire, etc., ce qui avait d'ailleurs, avant la pandémie, entraîner des succès économiques. Donc les États-Unis, ils peuvent vivre avec une dette de 150% du PIB pendant des années, ça ne leur pose aucun problème. Si l'Europe revient à ses anciennes erreurs, c'est-à-dire ce qui s'est passé au moment du pacte de stabilité, en disant on ne peut pas vivre avec une dette supérieure à 100%, c'est absurde. Au contraire, encore une fois, avec les taux d'intérêt qu'on a aujourd'hui, cette dette doit nous permettre d'avoir des politiques budgétaires, des politiques de relance. Par exemple, Thomas Gomard parlait tout à l'heure du numérique, mais oui, investissons dans une politique industrielle européenne sur les questions du numérique, parce que la souveraineté numérique est un enjeu majeur. En termes d'entreprises, des grandes entreprises numériques, on le sait très bien, les GAFAM sont américaines, et de l'autre côté, les Chinois, pour revenir à la question, Émilie, les Chinois aussi ont leur propre à la fois software et hardware en termes numériques. Il n'y a que l'Europe qui soit dépouillée. Et donc on est effectivement la proie d'attaques, de cyberattaques par exemple. Ça a été le cas au cours des dernières années de la part de la Chine, mais on est aussi dépendant des GAFAM, Apple, Google, etc. pour tout ce qui va concerner le télétravail et la vie à distance en fait, hein, après la pandémie. Ça, c'est plus possible. Donc, pour définir une politique industrielle européenne, je crois que c'est le moment à travers ces plans de relance.
En guise de conclusion, et je vous laisserai le mot de la fin, Dominique Régnier, est-ce que vous avez le sentiment, en écho à ce que disait à l'instant Aurélie Filippetti, que dans les semaines à venir, il y aura comme ça une sorte de consensus mondial, de toute façon, à mener des politiques de relance, des politiques d'investissement dans le secteur de la santé, dans le secteur du numérique, avec cette prise de conscience d'une menace chinoise? Et puis, en dernière question, je voudrais savoir si vous considérez que ce contexte, il va favoriser ou au contraire défavoriser les leaders populistes et ceux qu'on appelle les extrêmes dans nos démocraties.
Sur le premier point, ce qui est là encore extraordinaire, et c'est à nouveau de mon point de vue le thème de votre émission d'aujourd'hui, c'est que nous avons vraiment avec cette pandémie, il me semble que c'est la première fois que c'est à ce point vécu par l'humanité, une espèce d'expérience identique, même si on la vit différemment et parfois très différemment. Nous sommes dans une même condition historique. Et c'est vrai aussi sur le plan économique. Il n'y aura pas de sortie de la crise économique dans laquelle nous projette la crise sanitaire, qui peut être une crise économique terrible, et une crise sociale bien sûr. Il n'y aura pas de sortie s'il n'y a pas une sortie à tout le moins concertée, à tout le moins organisée sur un mode coopératif minimal, parce qu'il est évident, chacun le comprend parfaitement, que nous ne pouvons pas reprendre les échanges s'il n'y a pas des pays avec lesquels on peut échanger. Et donc ça ne peut pas se faire dans un seul pays. Il faudra que ce soit à l'échelle de la planète. Nous aurons aussi besoin, sans doute de ce point de vue-là, d'une politique chinoise beaucoup plus coopérative qu'elle ne l'a été jusqu'à présent. C'est pas certain qu'on puisse parier là-dessus. Mais j'insisterai simplement sur un point. On est dans une situation où la position de la Chine, elle est très difficile à décrypter. On a des connaissances sur ce qui ne varie pas en Chine, l'organisation du pouvoir, le parti communiste, le pouvoir à vie, s'il le souhaite, de Xi Jinping, l'absence complète de toute démocratie, de toute liberté. Donc on voit bien les éléments qui vont structurer la politique chinoise. Mais il y a des éléments qui nous manquent encore. Je donne juste un exemple. On sait que la Chine, malgré tout, ne peut pas aujourd'hui, c'est encore trop tôt, faire porter entièrement son développement futur sur son marché intérieur. Le marché intérieur chinois, les Chinois consommateurs, est beaucoup plus solvable qu'il ne l'a été dans le passé, mais c'est pas encore suffisant. La Chine a besoin d'exporter, elle a besoin de nous. Et donc dans cette relation, peut-être que nous pourrions arriver à tisser un lien plus équilibré. C'est assez ça ressemble un peu à des vœux pieux, parce que nous sommes malgré tout, on le voit bien avec les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, on voit bien la réaffirmation de ce qui moi me semble relever de la vieille politique de puissance qui n'a pas du tout été enterrée, qui fait même probablement retour puisque ces grands États sont affaiblis. Et la question sur le futur politique des populistes et des extrémistes. D'un côté, ils ont beaucoup d'atouts désormais dans leur manche. Ils en avaient déjà. D'abord, ils ont des atouts en général quand ça va mal. Quand ça va mal, le mécontentement augmente, et ces partis sont un peu des partis fourre-tout de ce point de vue-là. Quiconque a quelque chose à reprocher au monde peut trouver un écho favorable auprès des démagogues et des populistes. Donc ça peut les servir. Et si les nations, en particulier européennes, ne parviennent pas à coopérer efficacement, de manière visible, je dirais même ostentatoire, pour montrer que nous avons une issue collective, alors ces partis pourront s'appuyer sur le retour de ce qui, à mon avis, n'existe pas aujourd'hui, en tout cas en Europe, le retour d'une demande nationaliste qui n'existe pas aujourd'hui en Europe, quoi qu'on en dise, elle n'est pas encore disponible, elle pourrait le devenir si l'Europe décevait. Et puis on gardera aussi à l'esprit qu'il faut quand même observer comment les leaders populistes dans le monde font face à cette pandémie, à observer la manière dont Donald Trump, Bolsonaro et même, je dirais, Boris Johnson, même s'il faudrait commenter davantage son populisme, ça n'est pas une grande réussite et il n'est pas sûr que les populistes d'Europe puissent exhiber ces exemples pour faire désirer une bascule de ce type.
Merci beaucoup Dominique Régnier, Aurélie Filippetti, Thomas Gomard, Emmanuel Laurentin. C'est à vous pour la conversation mondiale sur le site de France Culture, des textes que vous commandez à des intellectuels du monde entier pour nous aider à penser la période singulière et perturbante que nous vivons. Que nous conseillez-vous de lire ce dimanche ?
Eh bien, puisque vous venez de parler effectivement avec Dominique Régnier de la Chine, je vous conseille le texte de la philosophe Jing Ziyi, qui est professeur à Shanghai, que nous avons publié cette semaine. Voilà un pays où la modernité, dit-elle, est différente de la nôtre, tout en s'appuyant sur deux variantes locales de la modernité occidentale, que sont le communisme et le capitalisme. Cependant, ces deux phénomènes masquent des imaginaires sociaux plus anciens qui ont ressurgi, dit-elle, à la faveur de l'épidémie et sur lesquels la propagande officielle s'est appuyée. En chinois, la politique signifie rendre droit et donner la bonne direction, explique Jing Ziyi. Or, dans l'imaginaire populaire, la légitimité du pouvoir vient de la capacité à mener, évidemment, cette politique, mais aussi à se corriger, ce qu'a fait le pouvoir après les erreurs du départ. Alors que beaucoup sont tentés de parler de biopolitique à propos de la Chine, poursuit Jing Ziyi dans son texte de la conversation mondiale, il faut s'attacher au concept même de vie et de liberté tels qu'ils sont entendus en Chine pour comprendre les réactions à cette pandémie. Et elle conclut, sans mettre de côté les questions sur l'opacité du pouvoir chinois, introduire un regard anthropologique permettra de voir que la Chine se modernise, mais autrement, et peut-être mal d'ailleurs, dit-elle, la modernisation doit faire l'objet d'un effort intellectuel débarrassé des œillères des modernes. Et cette modernité s'est arrêtée brutalement, explique dans un autre texte de la conversation mondiale, l'architecte et professeur de paysage Nicolas Gilsoul, dans les parcs, au repos, dit-il, fermé aux Parisiens, le printemps a explosé, l'oseille sauvage, les stellaires et les clochettes bleues de l'Iphéon crevant l'asphalte ont joué le relais d'une microfaune bourdonnante. Ce printemps silencieux n'a jamais été aussi bruissant, poursuit Nicolas Gilsoul. Merle, verdier, mésange charbonnière et perruche à collier ont occupé la fosse d'orchestre. Confinés, nous étions disponibles et à l'affût, ces signes de vie inattendus nous ont fait un bien fou. Et l'architecte propose de faire trois révolutions. L'une spatiale, qui serait de ne plus voir la ville comme le territoire exclusif de l'homme. La deuxième révolution est pédagogique, en promouvant dans l'éducation nationale un vrai appétit pour le génie du vivant et en apprenant aux enfants à décoder la jungle urbaine dans laquelle ils vivent. Et puis la troisième révolution est comportementale. Si nous avons entendu les oiseaux chanter, c'est bien parce que nous nous sommes tus, nous les humains. Instaurons donc une journée mondiale du silence pour écouter les palabres des non-humains citadins, dit dans ce texte de la conversation mondiale Nicolas Gilsoul, une révolution que nous aurons du mal à suivre, vous comme moi d'ailleurs, Émilie, tant nous avons peur du silence à la radio.
Mais non, je vous arrête tout de suite, il est des silences magnifiques, même à la radio. Merci infiniment Emmanuel Laurentin. La conversation mondiale est à retrouver sur le site de France Culture et on vous retrouvera tous les jours de la semaine prochaine pour le temps du débat. Merci à Vincent Abouchard qui aujourd'hui a réalisé cette émission, à Marine Beccarelli qui l'a préparée avec moi, à la technique aujourd'hui Stéphane Poitevin. Merci, grand merci comme toujours aux équipes du CDM et de Jean-Marc Clauss. Je vous laisse retrouver tout de suite Caroline Brouet qui, après avoir repris hier son excellente matinale du samedi, nous propose cette fois un déjeuner du dimanche rouge tomate. Et puis Marc Weisman pour Signe des Temps en direct de la Maison de la Radio qui a lu et regardé toutes ces tribunes d'artistes et ces vidéos d'acteurs, celles de Vincent Lindon notamment, en se posant la question dans le fameux Monde d'après, quel rôle pour les artistes. Excellente semaine à tous, à l'écoute de France Culture.